commencé à aborder un certain nombre de grands enjeux. Maintenant, on va approfondir ensemble cette question. Vous êtes quatre dirigeants bénévoles qui avaient été particulièrement mobilisés dans l'expérimentation, puis un administrateur national qui a suivi aussi. Et on va organiser cette table ronde en trois séquences. La première, c'est pourquoi se lancer dans une étude d'impact social. Et je vais tout de suite me tourner vers Jacques Monnier. Donc vous êtes président de l'UNAPI Bretagne. Et deux études d'impact ont été lancées. Est-ce que vous pouvez en rappeler l'objet et la fameuse question évaluative?
On va peut-être commencer par parler un petit peu des raisons qui nous ont conduits à nous engager dans cette démarche. Il faut d'abord savoir que tout au fait au début de l'action, lorsque l'UNAPI, tête de réseau, nous a consultés pour pouvoir participer à ce projet, sous forme d'un appel à projet, nous ne savions pas exactement quelle était la nature et le contenu d'une étude d'impact social. Nous avions pourtant en tête un problème. Le problème, c'est qu'à cette époque-là, nous étions dans une période où il y avait eu un certain rapport de l'ONU, de la secrétaire de l'ONU, et il y avait un certain nombre de choses qui étaient dites sur les associations dont celles dont nous faisons partie. Il y avait, nous semble-t-il, une envie de casser le système qui était déjà mis en place, et ça, vous ne pouvez pas l'accepter. Donc il fallait trouver une solution pour pouvoir tenter de répondre. Et c'est nous est apparu que l'étude d'impact pouvait peut-être être cette solution-là. Ça pouvait nous fournir un certain nombre d'éléments, un certain nombre de données qui allaient pouvoir être confrontées lors des discussions avec les différentes instances avec lesquelles nous travaillons, leur être opposées et pouvoir essayer d'atténuer au moins ce qui était dit et ce qui était dans l'air du temps à l'époque.
Vous étiez à la recherche d'arguments pour contrecarrer une... Et quelle était la question évaluative? Vous avez eu une étude sur les ESAT, une autre sur les associations tutélaires, une association tutélaire. Quelle était la question évaluative?
Alors d'abord, la raison pour laquelle on avait choisi de travailler avec les deux, puisque nous avons finalement fait deux études d'impact différentes, ce qui n'a pas facilité la tâche. Parce que c'était une grosse charge.
Je courage une, mais alors là, c'est deux.
deux. Donc, il fallait tout organiser en double, parce que les questions qui se posaient, évidemment, aux associations, qui étaient des associations gestionnaires, n'étaient pas tout à fait les mêmes que celles qui se posaient aux associations tutélaires. Donc, il fallait travailler sur les deux sujets à la fois. Les associations gestionnaires, il nous est apparu très rapidement que on pouvait travailler sur un sujet qui était celui qui correspondait le mieux à notre vocation, qui était de dire on travaille avec et pour les personnes en situation de handicap. Donc, en ce qui concerne les associations gestionnaires, c'était le thème qui avait été retenu pour pouvoir travailler. Ensuite, la deuxième orientation qui a été donnée pour les associations tutélaires, c'était de dire, là encore, il faut travailler avec les personnes. Donc essayer de voir sur le terrain quelles sont les questions que se posent les personnes qui sont accompagnées, comment elles réagissent à cet accompagnement, et puis quelles sont les raisons pour lesquelles on peut être amené à demander soit plus de monde au niveau des mandataires judiciaires, soit des fonds supplémentaires pour pouvoir consacrer plus de temps aux différents dossiers, puisqu'on était dans une situation où... alors que la norme est d'environ 40 dossiers par mandataire judiciaire, on lui demandait d'en réaliser 70. Donc on était pratiquement presque au double, sans apport supplémentaire et sans données supplémentaires. Il faut savoir qu'il y a une particularité aussi dans le monde de la protection judiciaire, c'est que c'est le ministère de la Justice qui décide et qui oriente, et qui décide que vous devez prendre en charge l'accompagnement de telle ou telle personne. Mais c'est pas eux qui payent.
C'est facile, du coup. Donc, la question évaluative telle qu'elle a été formulée, c'était dans quelle mesure nos actions aident les personnes accompagnées à renforcer leur autonomie et à améliorer leur qualité de vie. Merci, Monsieur Meunier. Je vous pose la même question, Monsieur Moreau. Vous êtes donc administrateur de l'une API Pays de la Loire, l'autre région impliquée dans cette expérimentation. Est-ce que vous pouvez rappeler l'objet et la question évaluative de votre étude ?
Oui, alors, très précisément, dans quelle mesure les associations parentales du mouvement Une API ont permis aux personnes accompagnées et aux familles de mieux vivre leur situation singulière ? Alors, dans cette question, en fait, il y a deux axes forts. C'est parler effectivement du mouvement parental et ensuite parler du vécu des personnes accompagnées et des familles. Alors, elle nous interroge, hein, cette question, sur deux champs. Notre légitimité du mouvement parental, hein, face à des parents qui, de plus en plus nombreux, nous considèrent en fait comme un service public. C'est la première chose. Et elle nous interroge et nous interpelle aussi sur notre utilité sociale vis-à-vis de nos financeurs qui, on l'a déjà rappelé ce matin, nous voient plus souvent comme des dépenses contraintes, en fait. Et cette question et toutes les sous-questions, effectivement, qui sont derrière, eh bien, tout de suite, nous ont permis de comprendre et de valoriser ce que produisent les services rendus aux personnes accompagnées, aux proches aidants.
Donc, on a eu un élargissement de la question, évidemment, avec les premiers concernés au centre. Et vous, chez vous, Madame Marie-Laurence Madigny, donc vous êtes administratrice de l'une API Auvergne-Rhône-Alpes, ARA, on dit, ou ORA, je ne sais pas. Pourquoi est-ce que vous vous êtes lancée dans cette expérimentation et quelle était votre question évaluative ?
Alors, notre question évaluative, c'est dans quelle mesure la solution IME dans le mouvement parental, une API, peut être un levier de facilitation et d'accompagnement vers l'école inclusive. Nous sortions de la visite de Catalina De Vanda, la défenseure de la convention de l'ONU, dans un de nos IME le plus compliqué. Et elle en a conclu, parce que je pense que la conviction était largement établie avant de venir nous voir, qu'il fallait désinstitutionnaliser, fermer tous ces IME et mettre tous ces enfants à l'école ordinaire. Voilà, donc on a reçu ça à la fois comme un choc, une interrogation, on ne sait pas convaincre. Et cette petite musique de la désinstitutionnalisation qui est quand même sous-jacente à beaucoup de discours stimuler pour essayer de proposer une façon de sortir de cette vision binaire des institutions versus milieu ouvert. Donc c'est la raison pour laquelle, quand il a fallu faire un choix, on a fait le choix de regarder du côté des IME et de regarder à la fois l'aspect éducatif des enfants, l'aspect passerelle vers l'école inclusive, l'aspect bien-être et développement de ces enfants, mais aussi l'aspect famille et comment finalement ce que l'on apporte aux enfants, mais aussi apporte en soutien aux familles.
Merci beaucoup. Donc on voit bien que dans les trois cas, la colonne vertébrale du projet associatif de l'une API et la place des personnes concernées est au cœur de vos réflexions que vous avez apportées aussi, enfin, que vous avez envie d'apporter des nuances. C'est un peu courageux, c'est le courage de la nuance, comme dirait, à une des visions binaires un peu plaquées d'en haut. Cette notion de place des personnes accompagnées est un peu élargie, évidemment, aux proches, aux professionnels, voire carrément aux clients des ESAT, qu'on n'a pas toujours l'habitude de considérer comme des partenaires. Explorons un petit peu plus précisément ces enjeux, les enjeux auxquels la mesure d'impact a pu répondre. Je me tourne vers vous, Monsieur Patrick Minson, donc vous êtes vice-président d'une API. Et en préparant cette table ronde, vous avez mis l'accent sur l'histoire du mouvement et la constante évolution de la prise en compte des personnes accompagnées. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Ben, si on regarde un peu le parcours de l'une API et le parcours des associations membres de l'une API, moi je vois trois grandes périodes, après qui sont évidemment grandes mailles, on va dire, hein, on ne va pas rentrer dans les détails. On a les années 60-80 où la stratégie, c'est une stratégie de protection des personnes en situation de handicap. Donc c'est la grande époque de la création des établissements, les IME d'abord, les établissements d'adultes. Donc il y a vraiment une volonté de protéger ces personnes qui, évidemment, auparavant, n'étaient en quelque sorte protégées que par leur famille et absolument pas par la société, par le pays, par les pouvoirs publics. Et puis, années 90-2010, on passe d'une logique de protection à une logique d'accompagnement. En quelque sorte, la première période qui est la protection, ça consiste à apporter, à régler le problème des familles hein, qui ont leur enfant ou leur adulte à la maison. Dans la période d'accompagnement, 90-2010, eh ben, on est beaucoup plus dans la préoccupation de la personne handicapée. De quoi cette personne a-t-elle besoin pour être bien, que ce soit l'enfant dans ses apprentissages, que ce soit l'adulte dans éventuellement le développement de son autonomie ou dans son accompagnement en fonction de son niveau de handicap. Et puis la troisième époque, celle que nous vivons aujourd'hui, on va dire qu'elle a pu commencer dans les années 2010, qui se poursuit là dans les années 2020, c'est une période où on travaille sur l'émancipation de la personne. C'est-à-dire que, c'est le FALC, par exemple, hein, la mise en place du FALC, la volonté également d'ouvrir nos établissements, non pas qu'ils furent fermés avant, mais en tout cas de faire en sorte que ces établissements aient des murs beaucoup plus transparents. Hein, avec des personnes qui sortent de l'établissement pour aller sur différents lieux de notre société, ou que ce soit d'ailleurs, je dirais, la société civile, si j'ose dire, qui passe les portes et qui rentre dans l'établissement, donc avec aujourd'hui une volonté de mettre en contact l'ensemble des populations, qu'elles soient handicapées ou malades. Et tout ça ne veut pas dire désinstitutionnalisation, ça veut dire simplement... partage des expériences, faire découvrir aussi le travail qui est réalisé avec ces personnes. On entend encore aujourd'hui et trop souvent, et souvent avec bienveillance, des gens qui nous disent « mais je ne savais pas que vous faisiez tout ça ». Eh bien, là, c'est peut-être nous qui avons péché là-dessus. On a énormément développé un savoir-faire, à nous aussi de développer un faire-savoir.
C'est joliment dit. Et quand on a préparé cette table ronde, vous nous disiez, mais en fait, ça fait 60 ans qu'on a de l'impact social sans forcément en avoir conscience. Et donc, du coup, c'est une manière aussi de prendre conscience qu'on a qu'on a du pouvoir d'agir, qu'on est en train de transformer la société. Et finalement, c'est intéressant. Est-ce que ce virage inclusif que les politiques des années 2016-2017, avec cette injonction à transformer l'offre, avec des indicateurs quantitatifs dont nous parlait tout à l'heure Lionel Berton, qu'est-ce qu'on peut dire en quoi une mesure d'impact social peut armer nous armer pour contrer un peu cette approche toute quantitative.
Il y a une injonction croissante hein, des administrations, elle est croissante, à utiliser des indicateurs chiffrés, des indicateurs quantitatifs. Hein, lorsque nous allons en rendez-vous, que ce soit à l'ARS, que ce soit dans les conseils départementaux, si on a l'audace d'exprimer un manque de moyens, on va nous répondre à coup de dizaines, centaines de millions déjà mis dans le secteur. Donc voilà, à cette volonté de vouloir faire avancer nos missions, nous sont souvent rétorquées des données extrêmement quantitatives qui se chiffrent en millions d'euros ou en pourcentage de je ne sais trop quoi. Nous, ce que nous voulons, évidemment, c'est de pouvoir mesurer nos actions en termes qualitatifs. Hein, c'est ce qui a déjà été dit précédemment dans la matinée, en quoi nos actions ont un impact sur les personnes en situation de handicap, en quoi elles ont un impact sur leur famille, leurs parents, plus tard leur fratrie, et comment tout ce que nous engageons peut faciliter la vie des uns et des autres. Mais c'est vraiment un combat de tous les instants, parce que notre, l'organisation de notre pays, hein, qui est quand même extrêmement centralisée, passe par des données chiffrées. Je me rappelle, moi, il y a quelques années, j'avais un interlocuteur au conseil départemental qu'on surnommait Calculette. Voilà. Alors maintenant, on ne les surnomme plus Calculette, mais on peut les surnommer Excel. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont une vision extrêmement chiffrée des choses. Ils ont été formés comme ça, il ne faut pas leur en vouloir. Et puis c'est aussi ce qu'on leur demande. C'est aussi ce que demandent les ministères. Voilà, qui va leur dire, vous avez ton budget pour l'année, et voilà, c'est ce... et puis à la fin du tableau Excel, à la fin de l'année, on doit avoir un budget équilibré. Ouais. Donc c'est, nous, on a un message à porter. Mais c'est compliqué, évidemment, de changer l'ADN de nos interlocuteurs qui, éventuellement, s'ils pouvaient faire une grande mission aussi sur l'impact social, ça leur ferait le plus grand bien.
C'est vrai que la culture de l'impact social dans l'administration est encore très basse. Et donc, en fait, vous allez probablement les faire monter en compétence aussi sur ce sujet dans l'administration. Donc on a là un enjeu d'arguments nouveaux proposés au tout quantitatif du qualitatif. Vous aussi, Madame Madinier, dans votre région, c'était un peu un des moteurs de votre engagement dans cette expérimentation. Montrer que ce qui n'est pas quantifiable a quand même de la valeur.
Mais voilà, on en a tiré des enseignements à plusieurs niveaux. Le premier, c'est effectivement celui-là. Les indicateurs qu'on a à notre disposition, qu'on nous impose, mais voire même ceux qu'on est capable de proposer aujourd'hui, sont très pauvres. Et parlons des enfants, par exemple, on est sur le pourcentage d'enfants qui a un parcours école inclusif ou qui a au moins une modalité d'école inclusive. Mais finalement, c'est très réducteur et la mesure de l'impact social nous a montré aussi beaucoup de choses sur la vie sociale de ces enfants. Le fait que, par exemple, l'inclusion dans un club de sport du quartier était plus facile pour un enfant qui était accompagné par un IME ou un CESA que par l'enfant qui était complètement livré même avec une AVS dans une école dite ordinaire. Les liens familiaux, le fait que les familles, on ne mesure pas seulement les mamans qui se remettent à travailler, mais aussi les mamans qui peuvent s'investir dans une autre activité, souffler un peu. Aujourd'hui, on parle beaucoup des aidants, du répit des aidants, mais dans un même temps, on se ferme un peu les yeux sur cette fonction de répit et d'accompagnement que nos associations offrent aux parents. Et puis la survie des fratries, c'est quelque chose dont on parle très peu, mais la fratrie est quand même mise en tension très très forte dans les familles et le sera encore plus s'il n'y a pas un accompagnement un petit peu plus large de l'enfant en situation de handicap. Un deuxième point qui est important pour nous, c'est finalement, dans ce contexte complexe, comment objectiver un petit peu entre les attentes des pouvoirs publics, donc qui veulent de l'école de plus en plus inclusive, des personnes accompagnées, le bien-être des enfants, et puis aussi des familles qui veulent du sur-mesure, qui veulent pas du tout établissement, qui veulent pas non plus du tout école. Et je crois que en tant qu'administrateur, en tant que responsable associatif, c'est important aussi pour nous de renouveler nos propres visions des attentes. Nos attentes de parents il y a quelques dizaines d'années quand nos enfants étaient tout petits ne sont pas forcément celles des parents aujourd'hui. Et quand on parle des parents en général, il y a plusieurs sortes de parents. On a vu par exemple en matière d'IME, les attentes de tout petit, dont les parents veulent beaucoup d'écoles inclusives, avec peut-être ce filet de sécurité que constitue l'IME, est différent de celui des parents de grands ados, de personnes qui ont fait justement une inclusion scolaire assez tardivement et qui se retrouvent à un moment donné en échec. Et qui peuvent casser, je dirais, toute la suite du cours de la vie s'ils n'ont pas un accompagnement adapté qu'aujourd'hui l'éducation nationale n'est pas capable de leur donner. Et en la matière, je ne leur jette pas la pierre parce qu'on ne peut pas tout faire dans ces situations. Et puis de même que les parents d'enfants qui ont un handicap qui nécessite une, un accompagnement structuré, je pense à des enfants autistes, à certains enfants polyhandicapés, apprécient d'avoir des professionnels qui sont formés, qui s'y connaissent, qui peuvent développer cet accompagnement plus spécifique que dans une école où ils n'ont pas trop confiance dans les capacités de l'instituteur ou du professeur lambda de pouvoir s'adapter. Et c'est de constater que dans une classe de 30, on ne peut pas s'adapter aux besoins particuliers de l'un ou de... Voilà. Donc, ça nous permet, nous aussi, d'y voir un peu plus clair et puis de sortir de notre posture défensive vis-à-vis du pouvoir public en démontrant et en nuançant une troisième voie possible.
C'est vraiment, là encore, on sent bien que ça vient de nourrir votre projet politique, votre vision de société, ça réaffirme votre... ça redonne de la vision de société. Monsieur Meunier, encore vous, excusez-moi, après je vous donne la parole, monsieur Moreau. Dans votre région, comme dans les deux autres, les personnes accompagnées et leurs proches donc, ont été largement associées à la mesure d'impact social à l'étude. Et qu'est-ce que ça apporte de les associer, de les faire parler? Au-delà de justement mettre à jour votre vision de leurs attentes,
ça permet de découvrir les attentes nouvelles de la part des personnes en situation de handicap. La société évolue, les personnes en situation de handicap évoluent aussi. Nous n'avons plus aujourd'hui dans nos populations tout à fait les mêmes personnes que celles que nous avions il y a quelques années en arrière. Donc il faut bien s'adapter. L'association a montré à plusieurs reprises qu'elle était capable d'évoluer, qu'elle était capable de s'adapter à ces changements importants dans la vie. Bon, il faut maintenant qu'on écoute tout le monde pour pouvoir aller plus loin. On a dit que tous ensemble, on a l'impression qu'on va plus loin. On a le sentiment d'aller plus loin. Donc c'était important qu'on puisse associer effectivement le maximum de personnes aux études qui ont été réalisées chez nous. Parce qu'il y a ce changement d'orientation qu'il va falloir prendre en compte et sur lequel il faut qu'on travaille et sur lequel on ne peut pas se tromper.
Puis le fait qu'il y ait beaucoup de monde, c'est juste que ça consolide aussi vos affirmations. Ce n'est pas juste vous qui dites « oui, c'est super ce qu'on fait, ça se voit comme le nez au milieu de la figure ». C'est étayé par le propos de centaines de personnes. Donc ça donne du poids, en fait. Et ça démontre la plus-value du modèle associatif parental que vous défendez. Monsieur Moreau, à vous, cette fois, je me tourne vers vous. Vous aussi, vous avez largement mobilisé la parole des premiers concernés. Qu'est-ce que vous pouvez souligner comme apport spécifique?
Alors, effectivement, recueillir la parole des personnes accompagnées de leur famille, ce n'est pas une nouveauté pour nous, puisque depuis 2011, la ville Loire-Atlantique, conduit tous les trois ans, en fait, des enquêtes de satisfaction pour les personnes accompagnées et des familles sur la qualité de nos services. Mais la mesure d'impact social va au-delà. Elle est complémentaire à ces enquêtes, car au-delà de la satisfaction, ce que l'on cherche à mesurer, à voir, c'est ce que cela produit et les effets. Et voilà ce que ça change pour eux. Et ça, c'est très intéressant pour nous parce que ça nous donne des arguments pour parler aussi aux familles. Pour parler aux familles de l'intérêt du collectif, de la solidarité parentale. Et dans une société de plus en plus individualiste, on le voit bien, nous avons peut-être encore à convaincre les jeunes parents de la pertinence et de l'efficacité de notre modèle qui s'appuie sur la solidarité. Qui se décline d'ailleurs dans toutes ses dimensions, territoriales, locales et personnalisées. Alors, bien évidemment, je reviendrai aussi sur ce qui a été dit, parce que je le conforte, ça permet d'identifier des marges de projet, des marges de progrès. Donc, d'entendre aussi des petites voix et des idées nouvelles, de les capter et de s'en inspirer, bien évidemment, pour faire évoluer nos projets associatifs. La mesure d'impact social, en fait, elle répond aussi à un enjeu de dialogue interne dans l'amélioration continue que l'on doit à toutes les personnes que l'on accompagne et toute leur famille.
Merci beaucoup. Ça vous permet aussi de repérer les attentes qui demain seront encore plus... d'anticiper les attentes, ça vous met en position proactive plutôt. plus que réactive. On voit à travers tous ces témoignages qu'il y a, des enjeux politiques, de, évidemment, de démontrer que l'argent qu'on vous confie est bien utilisé. Donc la logique en anglais de prove, la redevabilité. Il y a cette logique aussi de d'amélioration continue, d'innovation dont on a parlé, donc on est en anglais sur improve. Et puis je pense qu'il y a une vertu importante et dans la façon particulière dont vous l'avez porté collectivement, la façon dont vous êtes organisé avec un portage politique qui mélange les élus et les professionnels. Il y a aussi cette logique de approve, donc de délibération collective, de se redire collectivement qu'est-ce qui compte pour nous, à quoi on sert, et de vous de réaffirmer votre projet politique, de réaffirmer votre projet associatif, mais la vision de société que vous portez derrière, qui est forte. Donc ça vous donne des arguments pour ça. À tous les quatre, maintenant, je vais vous proposer de répondre à la même question. Quelles sont les prochaines étapes pour vous ? Je me tourne vers vous, Madame Badinier, en premier.
Alors, il faut déjà qu'on tire les fils un peu plus finement, comme je disais, de cette première étude, qu'on sorte de pourcentage global. Enfin, ce n'est pas du pourcentage, mais d'affirmation globale pour regarder plus finement comment cela se décline, parce que c'est là qu'on trouvera des leviers d'action. C'était une période pas très favorable aux enquêtes, terrain, etc. Donc en fait, notre limite, ça a été qu'on a regardé dans nos IME. Il faut maintenant qu'on regarde ceux qui sont en école inclusive pour pouvoir avoir des éléments de comparaison entre plusieurs modalités d'accompagnement d'enfants chez nous et ailleurs. L'idée, c'est de réduire sans doute le périmètre géographique. Là, on avait pris toute une région pour pouvoir comparer peut-être plusieurs modalités sur des espaces plus restreints, ou choisir un espace rural et un espace urbain pour voir, avec la densité des services, etc., les réponses à apporter ne sont pas forcément les mêmes. Cette démarche a fait émerger aussi des questions de gouvernance collatérale qu'il faut qu'on se repose justement dans nos associations. Pourquoi est-ce qu'on a une majorité de parents qui se disent satisfaits de l'accompagnement et qui sont très minoritairement adhérents à notre association? Voilà, c'est une vraie question. Pourquoi est-ce qu'il y a pas mal de parents de jeunes enfants qui nous disent « j'aurais bien aimé être un peu plus dans l'inclusion scolaire, mais on nous en parle assez peu à l'IME ». Est-ce que porte déjà sa réponse? On a un travail de conviction ou d'acculturation beaucoup plus fort à faire encore dans nos établissements, hein, au-delà de ceux qui sont déjà complètement convaincus. Voilà, ce sont des, comme je ne sais plus qui disait tout à l'heure, il y a des éléments de satisfaction qui sortent, mais il y a aussi quelques poils à gratter et il faut qu'on s'en saisisse.
Chouette. Monsieur Moreau, vous, même question, quelles sont les prochaines étapes en Pays de la Loire ?
Alors, la mesure d'impact social, on a bien vu, hein, c'est comprendre, mesurer, valoriser. Et les effets, moi je les vois plutôt à moyen et long terme, puisqu'en fait, c'est une démarche structurante pour les projets associatifs, et donc cette démarche, elle doit nous conduire vers. Alors, le projet et ses résultats, il s'appuie directement sur l'avis des personnes concernées. Donc c'est pour nous un axe fort et un point fort concerné par l'offre actuelle des établissements et services. Et cet avis, il est sans ambiguïté. Il conforte notre modèle. Alors moi, j'ai juste quelques chiffres là. Sur la très forte satisfaction, 95% des personnes se sentent bien dans leur lieu de vie et 90% sont contents de ce qu'il leur est proposé. Alors, moi, je voudrais savoir dans quel service, effectivement, ailleurs, sans doute pas la SNCF, on atteint ces dimensions-là. Je n'ai pas pris les bons modèles. Autre chose, lorsqu'effectivement un rapporteur de l'ONU vient nous caricaturer les établissements en disant effectivement que ce sont des lieux d'enfermation et de privation de liberté, la réponse de l'enquête des personnes elles-mêmes, 89% des répondants se sont fait des amis dans leur établissement et 65% des répondants se sont fait des amis en dehors des établissements. Donc, ces établissements sont aussi des lieux sociaux qui construisent des liens sociaux. Voilà. Une personne sur deux participe à des activités dans d'autres associations. Alors, c'est pas du milieu fermé, ça. Voilà. Donc, objectivons avec la parole des personnes concernées. Alors, aujourd'hui, on voit bien que la société change. Hein, on a des fractures territoriales qui apparaissent. Les modes d'accompagnement évoluent. Il y a aussi, effectivement, il faut entendre les nouvelles demandes. Et pourtant, le nombre de personnes laissées pour compte et sans solution augmente. Donc, la mesure d'impact social doit aussi être pour nous un élément de dialogue pour construire avec les décideurs politiques une vraie vision stratégique d'un projet sociétal. Et là, on leur apporte de la matière. Donc, on a quoi effectivement se parler les yeux dans les yeux, y compris lors de négociations de ces pommes. Et puis finalement, hein, cette démarche, c'est une démarche qui, à cet égard, permet de replacer en fait l'humain et le collectif, puisqu'on parle de solidarité, au cœur des engagements de chacun et au cœur de nos engagements, nous, de l'association parentale.
Vous êtes galvanisé, là, droit dans vos bottes, sans cœur. Résultats aussi, j'ai oublié de vous proposer d'abord peut-être sur la boîte.
J'adhère, ça va de soi, à toutes les personnes, à toutes les paroles qui viennent d'être prononcées, puisqu'en fait ce sont les aspects qu'on a effectivement abordés. Ce que j'ai surtout vu au travers de cette étude d'impact, c'est que toutes les questions que nous avions préparées dans le questionnaire, on était convaincus d'avoir posé les bonnes questions, et quand on a découvert les réponses que les personnes nous ont faites, on s'est aperçu qu'on allait louper quelque chose. Et qu'il y avait encore à gratter, hein, qu'il y avait encore du travail à réaliser pour qu'on puisse aller plus loin et plus finement dans le résultat de ces enquêtes qu'on pourrait effectivement amener face à nos politiques. Ça, c'était un point important, et ça fera partie, évidemment, du projet, hein, à venir, au cours duquel on a prévu aussi d'élargir encore le champ des participants, puisque on avait pour le moment interrogé les personnes qui étaient en situation de handicap ou les personnes qui étaient accompagnées par les services judiciaires, mais on n'avait pas été suffisamment loin. Et donc il faudra qu'on aille plus loin pour les rencontrer et qu'on les fasse participer maintenant même à l'élaboration des questions, parce qu'elles ont peut-être des choses à nous apporter dans l'élaboration des questions. Et c'est à ce niveau-là qu'on voulait travailler sur la façon d'affiner encore l'étude qui a été réalisée. Et puis, le projet derrière, c'est effectivement d'ouvrir d'autres champs, c'est d'aller vers d'autres populations. On a finalement travaillé que sur quelques populations, hein, c'est relativement restreint. Hein, vous avez travaillé sur les IME, on n'a pas, nous, travaillé sur les IME. Donc, il faudra bien qu'on aborde aussi ces sujets-là. Il faudra bien qu'on voit ce que ces personnes-là ont à nous dire, de façon à ce qu'on puisse ensuite faire une synthèse globale au niveau national et qu'on puisse présenter les résultats haut et fort à tous nos politiques. Donc il y a de ce côté-là aussi une participation complémentaire et supplémentaire des personnes en situation de handicap qu'on va chercher.
Magnifique, je crois que vous avez chopé le virus de la mesure d'impact social. Hein. Et vous, Monsieur Vincent, à l'échelle de l'UNABI nationale, quelles sont les prochaines étapes? En quoi ça va nourrir votre
programme? Pour nous, la mesure d'impact social doit nous servir à exprimer la place et je dirais même la pertinence du mouvement parental. Voilà. Cette mesure qualitative doit nous permettre de nous exprimer sur les actions que nous menons depuis 60 ans et les actions que nous menons aujourd'hui, sur les conséquences que ça a pour les personnes et les conséquences que ça a pour la société. Combien de fois, pendant toute notre histoire, combien de fois nos actions ont fait bouger les lignes de notre société, combien de fois nos actions ont fait évoluer notre société. Et c'est en cela que nous, il faut qu'on saisisse de tout ça. J'ai une petite anecdote, mais c'était une directrice de l'autonomie de l'ARS Normandie, c'est ma région, donc une directrice de l'autonomie qui m'avait dit il faudrait que vos conseils d'administration soient plus ouverts à la société civile. Voilà. Donc, dans sa bouche, évidemment, ça voulait dire vous êtes trop de parents dans vos conseils d'administration. Et moi, je lui avais dit, mais qu'est-ce que vous croyez, quoi ? Est-ce que vous croyez que nous sommes des extraterrestres tombés de la Lune le jour où on a eu un enfant handicapé ? Ben non, on a une vie. On a une vie dans la société, on a une vie professionnelle, on a une vie sociale, etc., etc. Bon, en plus, il se trouve qu'on a eu un petit truc dans la vie là, qui fait qu'on s'est engagé dans ce mouvement. Mais notre implication dans la vie associative et notre implication dans le mouvement d'une API, eh bien, nous aide également dans notre vie quotidienne, y compris notre vie professionnelle, à aborder des projets différemment. Donc, continuons d'appréhender l'impact social pour continuer de faire évoluer notre société. Puis je terminerai encore par un idée qui est un petit peu notre récompense de bénévoles qui arrive quelquefois. Ça m'est encore arrivé samedi dernier où on faisait l'assemblée générale de notre association. Généralement, ce sont des expressions de maman, hein, peut-être qui se livrent plus que les papas, mais qui nous disent « Eh ben voilà, j'ai trouvé chez vous une place pour mon fils, pour ma fille, je vais pouvoir reprendre ma vie professionnelle, je vais pouvoir reprendre une vie sociale, je vais pouvoir à nouveau rencontrer des gens parce que je ne suis plus contrainte de m'occuper de mon enfant 24 heures sur 24. Ben, » quand on a ce retour-là, ben, ça, c'est le premier impact social que nous pouvons mettre en valeur.